La France est ralentie par les guerres de religion. Elle ne peut pas prendre sa part aux grandes découvertes. Et cela commence avec le marin Jacques Cartier qui découvre le Saint-Laurent, qui est l'autoroute vers l'entrée de l'Amérique du Nord au Canada. Mais ça se développe surtout, cette exploration du Canada, sous Henri IV avec Samuel de Champlain, ce marin, fils de marin, mais aussi homme de guerre. Savant touche à tout, qui a de surcroît un oncle qui est piloto-major. Piloto-major, c'est un. En Espagne, c'est quelqu'un qui enseigne la navigation aux autres marins. Donc, il va utiliser les relations de son oncle avec le roi d'Espagne, Philippe II. J'ai oublié le nom de son oncle, mais c'est un fameux marin. Je crois que c'est le capitaine d'Alène qu'on présente comme le Provençal. Il doit avoir des origines, à mon avis, pas de Provence, mais du Midi en tout cas, par le sud-ouest certainement, qui va jouer un rôle important hein, dans la vie et dans les choix de ce jeune Samuel de Champlain, qui s'est engagé donc dans la Ligue, hein, donc catholique fervent, opposé à Henri IV, mais qui va évidemment, comme tous, s'y rallier une fois que Henri IV se convertira au catholicisme. C'est un drôle de marin, ce jeune Samuel de Champlain, parce qu'il lit des traités de religion, il lit donc des traités théologiques, il lit des vies de saints, ça le passionne, et il est passionné également par les récits de découverte de l'Amérique, qu'il glane au fil de ses lectures, mais aussi de ses discussions avec des marins dans les tavernes, dans les ports de l'ouest de la France. Et donc il va s'engager sur un galion espagnol grâce à l'entremise de son oncle et il va visiter une partie de l'Amérique centrale, naviguer dans les Antilles, il va s'arrêter au Mexique, à Cuba, il va même mener une mission d'espionnage au service d'Henri IV parce qu'il va faire le relevé des côtes et des territoires qu'il observe avec des observations très précises sur la faune, la flore, mais aussi sur le découpage des côtes et sur la réalité des forces espagnoles dans les Antilles. Cet archipel dans lequel les Espagnols sont bien installés depuis l'arrivée de Christophe Colomb voilà, en 1492 à Hispaniola, Saint-Domingue. Et d'ailleurs, quand il se fera prendre, il va jeter à la mer toutes ses notes et les restituer de tête en France. Donc c'est un personnage dingue, gravement méconnu, injustement méconnu. Si vous le trouvez, regardez un reportage remarquable de la télévision canadienne, évidemment, enfin québécoise en particulier, sur Champlain. Ça s'appelle Le rêve de Champlain. C'est en deux, un, deux ou trois, quatre parties. Le rêve de Champlain. C'est un truc grand public, hein. C'est même peut-être pas forcément québécois. Enfin, j'en sais rien. Le rêve de Champlain, c'est inspiré d'un bouquin qui est très bon, qu'on m'a recommandé. C'est très, très bon. Voilà. Il va aller assez loin quand même dans ses recherches, notre brave Champlain, parce qu'en fait, il va même écrire un traité des devoirs du bon marin. Alors là, c'est génial. Je vous lis Henri Servien, L'Amérique française. Bon, je vous conseille quand même. Alors, c'est à destination des enfants et des adultes. C'est assez agréable à lire. Moi, j'aime beaucoup ce genre de bouquins. Commencez plutôt par La petite histoire des colonies et des missions françaises, avec à la fin des réflexions sur les raisons des échecs et des succès de l'évangélisation partout dans le monde. Donc je puise aussi mon inspiration de cet ouvrage, Henri Servien. Il a fait aussi l'Asie et l'Afrique chrétienne, française, je veux dire. Voilà, donc vous avez ça pour commencer, et peut-être si vous vous intéressez qu'à l'Amérique, ben vous pouvez commencer avec celui-ci. Voilà, bon, moi je vous conseille vraiment celui-là. En plus, il y a des images, c'est très pédagogique. Et donc, Henri Servien a travaillé un peu le personnage. Et qu'est-ce qu'il nous apprend sur Champlain? Eh bien, en fait, dans ce livre, dans ce traité, Champlain donne des indications sur les étoiles, les routes à emprunter, les vents, etc. Mais également, il donne des prières, des conseils de moralité. Et en fait, il veut que les marins cessent d'être des gens sans foi ni loi aux yeux de la population. Et donc, il dit, avant tout, le bon marin doit être, je cite, sur toute chose, un homme de bien craignant Dieu. Donc, Jésus, premier servi. Un marin ne permet aucun blasphème à bord. Aucun blasphème. Jamais, jamais, jamais. Il doit faire matin et soir sa prière, devant les autres si possible. Il doit tout faire pour emmener à bord un homme d'église ou un religieux habile et capable pour faire des exhortations de temps en temps aux soldats et aux marins. Donc il a le souci déjà en tant que marin, avant d'aller en Amérique, de fortifier la foi des hommes d'aventure qui vont lier leur destin au Nouveau Monde. Champlain, il va remonter le Saint-Laurent dès 1603, comme beaucoup de marins français, je vous l'ai déjà dit, mais aussi normands, basques français, basques espagnols. Et puis, il va ra rapidement rencontrer des Indiens et il va devoir se positionner par rapport aux rencontres qu'il fait sur place. Et donc, très vite, il comprend qu'il faut, dit-il, cultiver et ensemencer les bonnes terres, construire des entrepôts solides, établir des ports de traite, c'est-à-dire des ports où l'on fait du commerce. Donc des ports qui sont un lien avec l'Europe et un lien avec les Indiens qui sont dans l'arrière-pays, difficilement accessibles. Donc les ports de traite vont être des lieux... À partir de ces lieux de traite, comme Montréal, qui était une ville au bord de la sauvagerie. La sauvagerie pour les Français, c'était la forêt, hein, c'était le monde, entre guillemets, indompté, d'Amérique. Donc à partir de là, ça va être le point de départ de nouvelles découvertes vers l'ouest, parce que l'objectif depuis François Ier, Jacques Cartier, c'est François Ier, 1534, c'est de découvrir la mer de Chine, c'est-à-dire un contact, une route vers l'océan Pacifique, pour accéder aux richesses de l'Asie du Sud-Est, les Indes. Donc ce motif-là qui avait déjà poussé Christophe Colomb, eh bien continue de pousser un siècle après, hein, plus d'un siècle après, les marins français. Le commerce avec l'Asie reste un très grand moteur. Mais voilà, Champlain a compris qu'il fallait pour cela s'installer, coloniser le Canada. Parce qu'il a bien vu ce qui s'est passé en Espagne, ce qui a fonctionné, et c'est ce qu'il souhaite pour l'Amérique française. Un des premiers devoirs des Français, écrit-il, est de faire connaître à nos alliés deux choses, l'agriculture et le Christ. L'agriculture et le Christ. Parce que là, on est face à des populations qui sont beaucoup plus sauvages, nomades ou semi-nomades, que les Aztèques ou les Mayas. Il y a les Aztèques et les Mayas ou les Incas qui sont à un haut niveau de civilisation, qui bâtissent des villes, qui irriguent des terres, etc. On a les Indiens... Taïnos et Caraïbes, qui sont des sauvages qui allaitent leurs enfants pendant des années, parce qu'ils mangent quasiment pas de viande, ils ont un régime alimentaire catastrophique du fait de leur mode de vie primitif. Et puis au milieu, on a les Indiens du Canada, qui sont un peu plus développés, mais qui ressemblent quand même plus aux Indiens des îles qu'aux Indiens d'Amérique centrale. Il faut quand même se rendre compte que ces Indiens ne connaissaient pas le métal. Ils étaient au stade néolithique, c'est 3000, 6000 ans avant Jésus-Christ, c'est-à-dire pré-agriculture, cité, pré-sédentarité, c'est le contraire du nomadisme. Hein. Donc il faut d'abord leur transmettre l'agriculture pour qu'ils fassent des réserves et qu'ils cessent de souffrir de la famine, parce qu'il y a des famines quasiment chaque année dans le monde indien. C'est un monde qui est régulièrement dépeuplé à cause de la famine. Et d'autre part, donc évidemment, le Christ, et donc pour ça, il faut les sédentariser et les évangéliser. Donc même constat hein, que pour les Espagnols, mais la situation française sera quand même un peu différente. La France a trop de retard et elle va le payer longtemps, très longtemps. Donc, il remonte le Saint-Laurent. Première installation, c'est Port-Royal qui est en Acadie. Aujourd'hui, c'est Annapolis, une ville du Canada, pas des États-Unis, je crois, mais pas loin. Annapolis. Et donc, il va s'installer là-bas, à Annapolis, et puis il va nouer des liens avec des Indiens. Et voilà ce qu'il écrit. Alors, vous pouvez trouver les récits de voyage de Champlain. Il y a un livre qui résume ces récits de voyage. Bon, moi, je déconseille en général, quand on s'intéresse à ces sujets, de commencer par lire des livres qui ont été écrits par les auteurs de ces aventures. Parce que très souvent, c'est des rapports destinés à être envoyés au roi. Donc, c'est des récits assez secs où on va à l'essentiel. Pour vraiment apprécier chaque détail et savoir lire entre les lignes, il faut voir le sujet d'un peu plus loin à travers l'œil d'un historien qui vous initie, qui vous introduit au sujet. Toutefois, il remarque que les Peaux-Rouges vénèrent un dieu, un fils, une mère et le soleil. Et bon, ce qui est partiellement exact, c'est une interprétation, hein. Et il va partir de là pour, dès le départ, essayer d'évoquer avec les Indiens le mystère de la Sainte Trinité. Donc, c'est un missionnaire qui n'a pas froid aux yeux. Donc, il va leur apprendre une toute première chose, la prière. On va commencer par la prière. Il va leur parler de la communion des saints et leur apprendre aux Indiens qu'il y a des saints qui prient pour eux. Donc, il va tout de suite baser son évangélisation sur le lien, sur la communion des saints et sur le lien entre la terre et le ciel par la prière à l'égard des saints. Malheureusement, Henri IV va envoyer autant, enfin autant, les deux premiers missionnaires envoyés autour de 1605 au Québec sont un pasteur protestant, un prêtre catholique, qui vont s'écharper sous les yeux des Indiens. Donc évidemment, le résultat est assez catastrophique les premières années. Mais très vite, Champlain va gagner l'oreille et la confiance totale d'Henri IV et faire venir des récollets, c'est-à-dire des franciscains radicaux, des jésuites que les Indiens appellent les robes noires et d'autres religieux. Il va fonder Québec en 1608. Donc, c'est pas la première ville d'Amérique, enfin, c'est la première ville durable d'Amérique. C'est la première vraie ville, en fait, durable d'Amérique, qui au départ est une pauvre habitation, hein, au bord donc du Saint-Laurent. Québec en algonquin, en indien, ça veut dire là où le fleuve se rétrécit, le fleuve Saint-Laurent. Donc, il va faire face à certains obstacles, comme les Espagnols. Un, le semi-nomadisme des Indiens, ils sont insaisissables. Deux, la polygamie. Donc là, la question des mœurs indiennes, de la culture indienne, se pose encore et toujours. Trois, l'idée que, enfin, l'absence de pardon dans la culture indienne. La vengeance est un devoir sacré pour les Indiens. C'est aussi pour ça qu'ils vivent en état de guerre perpétuelle. Donc, amener les Indiens à devenir des êtres sociaux, c'est les faire renoncer à la vengeance. Ça, c'est le grand projet missionnaire dans le monde entier, hein. Faire renoncer les peuples païens à la vengeance, parce que pour des raisons d'honneur, et l'honneur, ça va être d'ailleurs quelque chose qui va voilà, justifier des vengeances, des vendettas de partout dans l'Europe, hein, pas seulement chez les païens, ça survivra chez les Européens. D'ailleurs, c'est intéressant de constater qu'à la même époque, enfin un peu plus tard, sous Louis XIII, le duel sera interdit en France. Au même moment donc où on interdit la vengeance aux Indiens, enfin un tout petit peu après, au même siècle. Alors il est pragmatique, hein, notre brave Champlain, comme tous les missionnaires, c'est encore Servien qui nous le rapporte. Il est pragmatique. Que lui disent les Hurons, les Indiens Hurons, les premiers alliés des Français? En fait, c'est surtout les premiers Indiens que Champlain rencontre. Et comme Champlain, c'est pas un conquistador, hein, il part pas avec une armée, il part avec quelques hommes pour établir des relations, essentiellement. En fait, la France doit parer au plus pressé. Elle cherche à établir des relations économiques qui vont lui donner une certaine fortune assez rapidement pour développer sa flotte. Elle a un retard dans la construction de sa flotte sur l'Angleterre, enfin sur l'Espagne et surtout sur l'Angleterre. Donc, elle a besoin de rentrées d'argent importantes pour se mettre à niveau et rapidement accéder à l'Asie. Bon, elle n'accédera pas à l'Asie parce qu'il n'y a pas de route qui mène par l'Amérique du Nord à l'Asie, mais elle n'a pas donc pour l'instant les moyens de bâtir un empire. Elle n'en a pas totalement l'envie parce qu'il y a encore beaucoup de protestants en fait dans le cercle d'Henri IV, à commencer par son célèbre ministre, le calviniste Sully. Et donc forcément, cette division religieuse jusqu'au plus haut niveau du pouvoir, eh bien, freine l'évangélisation du Canada et donc tout projet d'installation. Bref, et donc Champlain rencontre les Hurons et tout de suite s'allie aux Hurons contre les Iroquois qui, eux, habitent au nord de New York et donc vont s'allier à qui? Ben, naturellement, aux Hollandais. Et aux Anglais, les premiers qu'ils vont rencontrer. Même cas de figure. Les Hurons disent à Champlain, habitez notre pays, amenez-y des femmes et des enfants, de sorte que, en vous voyant vivre et cultiver la terre, nous apprendrons plus en un an qu'en 20 années à entendre vos discours. Et donc là, il se rend bien compte, Champlain, que s'il veut convaincre, mais il le savait très tôt, les Indiens, il va falloir qu'ils vivent de plus en plus avec eux, et il dira. Nos fils épouseront vos filles et nous ne ferons qu'un seul peuple. C'est la grande phrase de Champlain. C'est la même chose d'ailleurs que Cortés avait dit à ses hommes, hein. Il avait incité tous ses lieutenants à prendre pour épouse des femmes de la noblesse indienne. Donc ça, c'est le même projet. un projet de métissage qui est, alors attention, hein, avec ce terme hautement inflammable de métissage, très à la mode politiquement, il y a métissage et métissage, hein, on est d'accord. Là, on a un peuple chrétien conquérant, sûr de lui, qui se métisse, et donc qui peut se métisser parce qu'il ne va rien perdre de son identité, il va apporter le meilleur. C'est vrai aussi, ne soyons pas naïfs, une partie du pire de ce qu'il a aux Indiens. Mais c'est un métissage globalement heureux. Parce que ce n'est pas un métissage sous forme de remplacement de population par une autre. Suivez mon regard. Il s'agit d'un métissage qui apporte un bienfait civilisateur aux Indiens que les Indiens réclament. De la Patagonie à la baie d'Hudson, la pointe noire de l'Amérique, les Indiens réclament ce métissage. Ça sera pas la même chose en Chine où on a une civilisation tellement perfectionnée que les Chinois sont un peu moins impressionnés par les prouesses des Européens. Bon, je suis beaucoup moins compétent sur la Chine, hein. Je vous préviens, je vais pas vous en parler beaucoup. D'ailleurs, je vais pas parler beaucoup plus longtemps du Canada. Et donc, que fait-il notre brave Champlain? Eh bien, à la table le soir où il réunit les premiers habitants de Québec, qui sont très peu nombreux, quelques-uns, quelques dizaines, quelques centaines. Québec, c'est une ville minuscule, hein. Pourquoi? Ben, la France va rater toutes ses colonisations. Du Canada jusqu'à l'Algérie, parce que la France est un pays de cocagne. C'est pas un pays où il y a des températures insupportables avec des sécheresses terribles comme en Espagne. C'est pas là un pays non plus écrasé par les marées EES, mais surtout les marées AIS, la pluie, etc., comme en Angleterre. C'est un pays de cocagne. Les Français ne veulent pas partir de la France, on les comprend. Et c'est pour ça qu'on ne va jamais beaucoup coloniser les territoires de notre empire, et c'est ce qui fait qu'on va les perdre à terme. Donc, que fait Champlain? Il fait la lecture à sa table le matin, une lecture d'un bon historien, et le soir, il lit des Vite-Saints, comme un maître à ses enfants. Il lit ça à ses hommes quand ils ne sont pas très nombreux. Après, il va lire ça au chef de famille. Il y a un père qui a été supérieur de la mission de Québec, qu'il a rencontré, qui témoigne. Il fait sonner la salutation angélique au commencement, au milieu et à la fin du jour, donc l'Angélus, hein, 8h, midi, 20h. En un mot, c'était un chef extrêmement zélé pour la gloire de notre Seigneur. Comment a-t-il réussi à développer le catholicisme, à faire venir des missionnaires, à toucher les Indiens? Il avait le plein appui du roi. Encore une fois, toutes les évangélisations réussies sont des évangélisations où le roi soutient l'Église, où l'Église est soutenue par le roi, et où l'Église peut s'appuyer sur la force des soldats qui éradiquent le paganisme. Encore une fois, il n'y a pas d'évangélisation sans politique, sans action du politique, c'est-à-dire sans action de l'État, hein, voilà, du chef civil. Donc la laïcité ne permet pas l'évangélisation. C'est déjà une première piste de discussion pour après. Bon, voilà. Et puis au mi-temps du XVIe siècle, c'est le temps des martyrs. La France a peu d'argent à investir dans ses colonies. La France est quasiment en guerre pendant tout le XVIIe siècle. C'est encore pire sous Louis XIV. C'est le début des problèmes financiers qui exploseront un siècle et demi plus tard au moment de la Révolution française. La France est un pays riche par son commerce, mais en déficit permanent parce qu'elle fait la guerre, notamment aux Habsbourg, aux Espagnols et aux Autrichiens. C'est la même famille qui dirige l'Empire autrichien et l'Empire espagnol. Moi, je pense que le plus grand échec du christianisme dans l'histoire de l'humanité, c'est en fait le combat entre les deux grandes puissances catholiques dans le monde, les Espagnols, les Autrichiens, les Habsbourg. Et nous, d'autre part, ça date de François Ier, on ne s'est jamais relevé de ça. Ça explique le succès du protestantisme, ça explique voilà, notre échec aussi en France parce qu'on a été beaucoup trop absorbé par ces guerres sur le vieux continent. Le plus grand drame de notre histoire pour moi, c'est vraiment notre combat contre l'autre grand pays catholique. Pour moi, il y a deux filles aînées de l'Église en Europe, c'est l'Espagne et la France. Et notre mésentente, c'est un drame. Vous savez que le culte des anges gardiens vient d'Espagne. Le dogme de l'Immaculée Conception vient d'Espagne. Il est déjà reconnu comme dogme au XVIe siècle dans toute l'Espagne, 4 siècles avant la France. L'onction qui est faite sur le front du roi avec de l'huile sainte au moment du sacre, c'est une tradition wisigothique, c'est pas une tradition franque. Bon, nous, ça vient de la Sainte Ampoule, l'huile qu'on utilise pour le sacre. Donc c'est un peu plus stylé, comme disent mes élèves de 8 ans et 9 ans et demi. Mais c'est une tradition wisigothique espagnole. Le Concile de Trente au XVIe siècle, je vous en ai parlé la dernière fois, c'est quasiment que des cardinaux espagnols. L'Espagne, elle a pris le relais de la France quand celle-ci est devenue un peu plus infidèle à partir de François Ier. Voilà. Bon, le temps des martyrs, c'est le temps du génocide des Hurons, des Indiens progressivement catholicisés, pro-français, par leurs ennemis héréditaires, les Iroquois, qui ont beaucoup d'armes. Pourquoi? Parce qu'ils ont le soutien des Anglais. Et la colonisation des Anglais, ce n'est pas la colonisation des Français. Les Anglais arrivent avec une industrie plus performante. Et surtout, ils arrivent pour coloniser, c'est-à-dire prendre la terre. Au temps attendez, voilà, au temps de Louis XIV, entre 1695 et 1700, il y a à peu près 15 000 âmes en Nouvelle-France, pour un territoire qui fait plusieurs fois la taille de la France, qui sont toutes concentrées, toute la population est concentrée autour de l'autoroute de l'Amérique, c'est le Saint-Laurent. Il y en a 250 000 dans un territoire beaucoup plus petit autour de New York. 250 000 contre 15 000. Donc démographiquement, on avait déjà perdu, hein. Voilà. Bon. Donc, génocide des Hurons, tous massacrés par les Iroquois. Les Indiens voient les Français ne pas être capables d'enrayer ce génocide et donc ne vont pas totalement perdre confiance, mais en tout cas, ça va limiter de beaucoup la pénétration française au Canada. Bon, mais ça nous vaudra quand même Sainte-Catherine Tekakwitha, première sainte d'Amérique, je pense pas. Peut-être, en tout cas, première sainte indienne d'Amérique du Nord, voilà, canonisée, qui elle vivra, enfin va fuir la tribu où elle sera persécutée pour vivre dans une mission, parce que les Français vont quand même avoir l'opportunité de créer des missions, c'est-à-dire des citadelles qui sont aussi des hôpitaux, des lieux où on prie pour les sœurs, et où on éduque les jeunes filles. Et donc la scolarisation à travers les missions qui seront réparties le long du fleuve va jouer un grand rôle dans l'évangélisation du Canada. Or ça, c'est comme en Espagne, hein, évangélisation par l'éducation. Cependant, voilà, comme je vous l'ai dit, la présence française, elle est extrêmement limitée. Je vous ai dit 15 000 à la fin du XVIIe siècle, mais au début du XVIIe siècle, c'était 3 000. Donc 3 000 à 15 000 en 100 ans, c'est pas beaucoup comme progrès, hein, de population. Contrairement à la couronne espagnole, la France ne s'est pas préoccupée de créer des paroisses, des villages pour encadrer les populations indiennes. Ça a été l'action de quelques missionnaires religieux, mais laïcs aussi, beaucoup de laïcs, beaucoup de saintes femmes comme Marguerite Bourgeois, Bourgeois Geoys, très grande figure. Comme aussi Hélène, dont j'ai oublié le nom de famille initiale, peu importe, Hélène de Champlain, qui était la mère des Indiens, qui catéchisait tous les Indiens qui venaient la visiter et qui lui baisaient les pieds. Il y a de très très belles histoires sur l'Amérique française, c'est magnifique. Ça mérite une conférence à part entière. Voilà. Donc, les relations sont quand même assez différentes. Et puis, la puissance française, beaucoup moins importante que la puissance, ou en tout cas que l'ardeur espagnole au XVIe siècle, eh bien, ne va pas empêcher, va pas permettre de protéger durablement les Indiens pro-français des attaques des Indiens pro-anglais. Donc, forcément, ça ne va pas aider du tout. Voilà. Le Canada, je ne peux pas en dire plus, hein. J'ai promis qu'on serait pas long, donc je ne serai pas long. La Chine, je passe à la Chine rapidement. La Chine, l'Afrique, c'est des territoires où l'on va assez peu, là aussi, nous développer politiquement. C'est-à-dire que oui, on va faire entrer une grande partie de l'Afrique dans l'Empire français, mais le problème, c'est qu'on ne va pas coloniser suffisamment ces territoires comme les Espagnols l'ont fait. Et puis, ce qui est quand même le plus important, c'est que la France est dans un état de division religieuse qu'elle ne surmontera jamais vraiment. Et elle n'a pas forcément non plus le même élan, même s'il y a le grand siècle des âmes, mais enfin, le grand siècle des âmes à cheval sur Louis XIII et Louis XIV, ça va quand même plus toucher la France métropolitaine que le monde. Donc il y a des grandes figures de saints, c'est vrai, comme Saint-Vincent de Paul, mais il n'y aura pas le même élan. que le siècle d'or espagnol, parce que la France et l'Espagne, c'est pas la même histoire. La France, elle décline en fait progressivement à partir de François Ier, alors que l'Espagne, c'est tout l'inverse. Elle va décliner beaucoup plus tard. Voilà ce que je peux en dire. Je peux pas en dire plus, même si c'est un peu frustrant, mais on va s'arrêter là. Donc, je repars sur la Chine. Il y a quand même 300 000 catholiques en Chine au début du 18e siècle. Alors, c'est 300 000 sur 150 millions d'habitants. Donc, en fait, c'est moins de 0,5% de la population. Mais peu importe. Les pourcentages, parfois, ça ne veut rien dire. 300 000 habitants convertis au catholicisme, c'est énorme. Le problème, c'est que ça dépend de l'empereur qui est en place et de l'un à l'autre. Les persécutions reprennent. Tout ça au gré des accords commerciaux entre la France et la Chine. Donc, c'est quand même un équilibre assez précaire. Aujourd'hui, vous savez, il y a deux églises hein, catholiques en Chine, une église contrôlée par le pouvoir et une église clandestine. Il est très difficile d'avoir des renseignements sur donc l'état du catholicisme en Chine. Donc, le germe a été implanté, mais il n'a pas été cultivé. Pour résumer la différence entre l'évangélisation espagnole et française, le germe a été implanté, mais pas cultivé par les Français parce qu'ils n'en avaient pas les moyens politiques. Là, je vous invite tout simplement à relire l'histoire de France. Hein. Une succession de guerres religieuses à partir donc de François Ier qui vont petit à petit freiner ses ambitions missionnaires. Et puis il y a des querelles qui traversent aussi l'Église. Les jésuites qui sont à la pointe de l'évangélisation de la Chine vont défendre l'idée que les rites confucéens, vous savez, les rites de la religion ou de la spiritualité confucéenne, qui est plus une philosophie, mais enfin bon. Rites qui sont des rites où on honore l'ancêtre Confucius, le grand sage. Pour les jésuites, ce n'est pas du paganisme. Mais le pape va trancher contre les jésuites, alors que les jésuites sont les missionnaires les plus actifs en Chine. Donc ça aussi, les divisions dans l'Église vont ralentir considérablement l'action missionnaire en Chine. Le Christ nous a prévenus, hein, tout royaume divisé contre lui-même finit par courir à sa ruine. Donc ça vaut pour l'Église, ça vaut pour la France, c'est ce qui va freiner considérablement l'action française. Pourtant, au Canada, elle a été magnifique. Samuel de Champlain, il a tout le talent, le génie d'un Cortés, mais il n'est pas à la bonne époque dans le bon pays. C'est tout. Pour moi, c'est les deux plus grandes figures de conquérants, hein, Cortés et Champlain. Ensuite, en Afrique, bon, alors en Afrique, quand même, on a un gros problème, c'est la Méditerranée, qui est un lieu de piraterie. Qui nous empêche d'accéder à la liberté hein, maritime et qui limite beaucoup notre pénétration en Afrique du Nord. D'autant plus que l'Afrique du Nord est tenue par l'islam et donc beaucoup plus difficile à subjuguer que l'animisme, le paganisme des Africains. Et là aussi, on a des modes de civilisation assez différents. Hein. Il y a des églises dans les terres d'islam, il y a des routes, il y a du commerce. Bon. Les musulmans sont à la pointe sur certains sujets parce qu'ils l'ont hérité des Byzantins, notamment des Grecs, enfin de toutes les populations qu'ils ont dominées. Historiquement, les musulmans ont pillé, copié, ils ont assez peu inventé. Mais enfin, oui, pardon, Capucine.
Oui, c'est une question par rapport à l'Afrique. Est-ce que dans l'Afrique du Nord, qui est quand même assez proche du Moyen-Orient, est-ce qu'il n'y avait quand même pas déjà des catholiques dus à la proximité géographique des temps des apôtres et tout ça, quoi?
Oui, tout à fait. L'Afrique du Nord a été très touchée par différentes hérésies dans les premiers temps chrétiens, notamment le fameux donatisme dont je vous ai parlé la dernière fois, qui a été remis en cause évidemment par Saint Augustin. Et donc, ils ont été, comme l'Orient d'ailleurs, en fait, toutes les régions du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord touchées par les hérésies chrétiennes qui généralement remettaient en cause la divinité ou l'humanité du Christ, mais qui avaient du mal à accepter l'idée qu'il était 100% Dieu et 100% homme, eh bien, se sont données très facilement à l'islam, qui à cette époque, dans les tout premiers temps, eh bien, c'est présenté comme compatible avec le christianisme, comme les musulmans se présentent d'ailleurs encore, hein, en disant Jésus est l'un de nos messies, reviendra à la fin des temps, etc. Et donc les chrétiens ont été, faut le dire, malheureusement, facilement convertis à l'islam. Donc il reste peu de vrais catholiques, de vrais chrétiens en Afrique du Nord Très souvent sont des esclaves qui ont été radiés par des musulmans. Et donc l'action missionnaire, avant d'être missionnaire en Afrique du Nord, ça sera une mission de rachat des captifs, notamment par les mercédaires. Les mercédaires, c'est l'ordre de la Merci, dont faisait partie le père Olmedo, l'aumônier de Cortés d'ailleurs. Donc oui, il y a des communautés chrétiennes, mais très isolées, et qui vivent dans l'état de dhimmitude. L'état de dhimmitude, c'est un état de soumission imposé par les musulmans aux peuples du livre. Les peuples du livre, ce sont les juifs et les chrétiens, et donc les musulmans. Mais les peuples du livre non musulmans, les juifs et les chrétiens, sont frappés d'un impôt particulier, ils doivent baisser la tête quand un musulman les croise dans la rue, ils sont des citoyens de seconde zone. Donc il y a des chrétiens, mais avec leur quartier, de façon isolée, et donc ils ont évidemment interdiction d'être missionnaires. Et ils vont, comme en Espagne d'ailleurs, c'est la même chose, du temps où elle était musulmane, connaître le martyre. Cependant, le christianisme ne va pas progresser là-bas. Donc quand on entend souvent cette phrase, vous savez, sang de martyr, semence de chrétienté, oui, le sang des martyrs est une semence de chrétienté. Mais une semence de chrétienté, il faut qu'elle tombe dans une bonne terre, et après, la plante qui pousse, il faut l'entretenir. Le martyr ne suffit pas, le martyr n'a jamais suffi, on l'a bien vu dans notre premier entretien, pour faire une chrétienté. Donc le problème de l'Afrique, c'est l'islam, c'est la piraterie. Quand on va vraiment se développer en Afrique du Nord, ça va être à partir du Second Empire colonial, prise d'Alger en 1830. Donc ça y est, la liberté est rendue à la mer, pardon, parce qu'Alger était un nid de pirates. Mais la situation politique en France a bien changé, hein. Je vous rappelle que la colonisation, la prise d'Alger, c'est 1830, c'est Charles X. Mais vraiment, la colonisation, c'est-à-dire la prise du territoire, où on envoie des gens cultiver la terre, etc., c'est Napoléon III. Et surtout la Troisième République. Une ère anticléricale, voire antichrétienne, la République va tout faire pour décourager la conversion des musulmans. Elle va même faire fermer des congrégations, interdire la mission. Donc, comme le politique ne suit pas et va donc entraver la marche des missionnaires, ben, la mission se fera très mal. En Afrique noire, ça sera très différent parce que les Noirs vont beaucoup moins combattre et être moins ardents et sont plus impressionnables parce qu'ils sont dans un niveau culturel et social tellement affligeant qu'ils vont être comme les Indiens, mais leur situation était pire que celle des Indiens, très vite impressionnés par l'ingéniosité européenne. C'est pour ça qu'on a des pays africains aujourd'hui qui sont beaucoup plus courageux. Vous l'avez vu au moment de l'affaire de la bénédiction des homosexuels, beaucoup plus courageux que les évêques occidentaux, hein. La déclaration des évêques du Cameroun, elle est brillante, hein. Elle est pleine de courage. Bon, bref, la France recule. Voilà, aujourd'hui, l'influence française dans le monde recule. Notamment à la faveur de la laïcité. Et donc la foi, la croix elle-même a reculé. À cela, on peut ajouter évidemment la crise dans l'Église à partir des années 60, où on a vu l'effondrement du désir missionnaire parce qu'un doute sur la véracité de notre foi, sur la nécessité de l'exposer de manière affirmée, fière, conquérante. Et puis voilà, évidemment, division de la chrétienté, là je reviens un peu en arrière, là, je pense que les divisions de la chrétienté dès le XVIe siècle, qui ont surtout touché la France, ont empêché de jouer son rôle missionnaire. Voilà. Alors, bon, je vais vraiment pas plus loin sur l'histoire, hein. J'ai promis que je serais pas long, donc je serai pas long. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Il y a 1,3 milliard de baptisés dans le monde, selon une étude d'un centre américain, le Pew Center, PEW. C'est une étude d'envergure qui a été diffusée par Le Monde en 2012. Bon, je pense que ça n'a pas énormément changé depuis 2012. Il faut pas prendre ces chiffres au pied de la lettre. Moi, je me méfie toujours de ce genre de choses. Quand on voit déjà comment on arrive à calculer le nombre de catholiques en France, allô, comme dirait l'autre. Par exemple, on dit souvent qu'il y a 5% de catholiques en France. En fait, un catholique pratiquant, pour l'Institut de sondage de l'INSEE, donc l'Institut national de je ne sais plus quoi, enfin l'Institut officiel en France, un catholique pratiquant, c'est quelqu'un qui va à la messe 2 ou 3 fois par an. En fait, un catholique observant Donc, vraiment pratiquants, selon les instituts de sondage, c'est moins de 1,5% de la population en France. Donc, voilà, je me méfie, moi, de ces sondages-là. Bon, 1,3 milliard de baptisés, déjà de baptisés, hein, ça ne veut pas dire pratiquants, dans le monde. C'est 1,3 milliard de catholiques, hein, sur 2,2 milliards de chrétiens. Donc, c'est 32% de la population mondiale. Ce serait, hein, je parle au conditionnel, pour moi, ce sont des indices, ce n'est pas une certitude. 1,6 milliard de musulmans, c'est 23%. 1 milliard d'hindous, c'est 15%. 500 millions de bouddhistes, c'est 7%. Et puis, 14 millions de juifs, ouais, c'est ça. 14 millions de juifs, c'est 0,2% de la population. Bon, voilà. Alors, je vous donne ces chiffres parce qu'il faut les connaître. Maintenant, c'est pas avec ça qu'on va évangéliser notre pays, ni même le monde. Enfin, bon, voilà, c'est des statistiques. Moi, je vous propose le constat suivant, à la lumière de tout ce qu'on a dit depuis quatre séances. Un, notre société est extrêmement déritualisée. Les rites ont disparu ou ont été remplacés par d'autres. Par exemple, les rites de passage d'un stade de l'enfance à un autre sont remplacés aujourd'hui par l'achat du premier smartphone à 9 ans. Voilà, par exemple. Le rite de passage à l'âge adulte a disparu parce qu'aujourd'hui, il y a quasiment plus d'adultes aussi. Il y a des adolescents, il y a des enfants qui n'arrivent pas à sortir de l'enfance, mais il y a de moins en moins d'adultes. Le rite d'intégration à la faculté ou dans certaines écoles, comme les écoles de médecine, bon, ben, ce sont des orgies, ce n'est plus des rites. Hein. L'enterrement de vie de garçon, l'enterrement de vie de jeune fille, bon, au mieux, c'est une sortie entre amis qui n'a aucun sens, quoi. Genre, visiter une forêt à dos de poney pour enterrer une vie de garçon, super. Ça donne très envie. Voilà, même dans le monde catholique, les rites ont globalement, je trouve, disparu. Pour moi, le seul rite qui subsiste chez nous, alors quand je dis rite, je ne parle pas d'un rite liturgique. Ben oui, il y a encore la messe, la première communion, je ne parle pas des sacrements, hein, je parle de d'autres rites. Qu'est-ce qui reste? Pour moi, il reste la promesse scoute surtout. Je vous donne quelques exemples de rites qui autrefois guidaient notre existence en Allemagne. Je crois que ça commence à rentrer en France, cette tradition. Je la trouve très belle d'ailleurs, même si elle est allemande, c'est pas grave. Moi, je pense que c'est tellement le chaos aujourd'hui dans le monde chrétien et dans le monde en général qu'on peut prendre des traditions d'ailleurs si on arrive à les adapter intelligemment à notre culture locale, régionale. Voilà. On n'est pas là pour entretenir des cendres, on est là pour faire vivre une flamme. Voilà, ça, je pense que c'est important quand on veut réveiller des traditions et des rites qui, pour moi, sont l'axe majeur de la re-christianisation de la France et du monde. Pourquoi? Parce qu'on est des êtres de sens. Nous accédons à la connaissance par nos quatre sens d'abord. On est des esprits et des corps. Nous sommes la religion de l'incarnation. Est-ce que le Christ avait besoin de dire Ephphatha et de toucher avec sa salive les oreilles du sourd-muet pour le guérir? Non. Mais il a utilisé le rite dans un sens pédagogique et missionnaire. Puis avant le Christ, le bon Dieu force Moïse à accomplir un rite. Il doit monter au Sinaï, les tables de la loi, le buisson ardent. Ça, c'est le bon Dieu qui ritualise sa parole. Il n'était pas obligé de faire brûler un buisson. C'est le bon Dieu, il est tout puissant. Mais le bon Dieu nous donne, c'est un maître d'école. Donc il fait de la pédagogie, il fait du rite. Donc parmi la tradition allemande dont je voulais vous parler, vous savez, c'est on bénit une craie, on écrit l'année et les initiales des rois mages sur le linteau d'une porte, de chaque porte. À la Chandeleur en Provence, avec les cierges bénis de la messe de la Chandeleur, qu'on doit ramener sans que la flamme s'éteigne, pas facile, de l'église à la maison, on doit bénir chaque entrée. Moi, j'ai ouvert un bouquin qu'on m'a offert pour Noël, Le folklore de Provence, avec que des récits de traditions comme ça, religieuses, selon les âges, etc. Bon, ben, modestement, à mon petit niveau, j'essaie de les appliquer, on fait ça en famille. C'est très facile de refaire naître du rite et de la tradition, le rite et de la tradition. En fait, comme le disait Don Gérard, c'est une pensée en acte. Je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit ça. C'est une pensée en acte. C'est une pensée humaine incarnée dans un geste. Comme le christianisme, c'est quoi? C'est d'abord Dieu incarné dans un homme. Notre religion, ce n'est pas d'abord un livre ou une doctrine, c'est un homme-Dieu qui rencontre l'homme. Et donc, le rite, il est capable d'une grande force d'expression, d'une grande délicatesse. Pour exprimer les choses, et comme le dit encore Don Gérard, ça c'est pas demain la chrétienté, c'est réflexion sur la liturgie. Le christianisme est monté comme une aurore dans le ciel de l'histoire parce que l'âme chrétienne, attentive au rite, voyait éclore le surnaturel à chaque pas. Aux âges de la foi, au temps de la foi, au temps passé, nous dit Don Gérard, l'enfant chrétien grandissait au milieu d'une forêt de rites qui lui parlait du monde invisible aussi clairement que les panneaux indicateurs de nos routes nous signalent la direction à prendre. Il y a une autre tradition très belle en Provence, enfin dans un petit village de Provence. J'ai retrouvé ça et on va le faire avec mon fils là qui va faire sa première communion. Le garçon, pour aller à la Sainte Table et recevoir Jésus hostie, devait porter une couronne d'épines et devait se lier d'amitié quelque temps avant la communion avec un autre enfant, une fille ou un garçon, prier avec lui pour recevoir Jésus comme des frères au moment de la scène. C'est magnifique ça. Je trouve ça magnifique. C'est tellement beau. Le rite, c'est pas un truc sec. C'est un truc qui doit être vécu avec fraîcheur, avec joie, évidemment. Il ne s'agit pas de recopier des trucs. Il faut être inventif aussi dans le rite. Hein. Bien sûr, on ne peut pas recopier le passé. Il est mort. Il n'y a plus rien à conserver. Hein. Il y a tout à reconstruire. Il y a tout à restaurer. Il n'y a plus rien à conserver. Tout est mort. Bon, c'est pas grave. Nous, on est vivants, donc on va faire revivre tout ça. Je suis très, très optimiste là-dessus. C'est bien que tout soit mort finalement, quasiment. Sur la table rase, il est peut-être plus facile de parler du christianisme aux gens qui n'en ont jamais entendu parler en mal. Finalement, les chrétiens autour de nous, enfin les Français, ils ont tellement aucune culture qu'ils n'ont même plus d'a priori, on dirait, en tout cas pour un certain nombre d'entre eux, sur le christianisme. Donc c'est une opportunité. Bref, et les jeunes filles, elles, portaient donc une couronne de roses. Voilà. Mais oui, mais pourquoi? Parce que l'Eucharistie, qu'est-ce que c'est? C'est l'union intime au Christ Jésus, nous dit le catéchisme. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Le premier fruit de l'Eucharistie, c'est l'unité de l'âme de l'homme à Jésus. D'où la couronne d'épines. Bon, il y aurait plein d'exemples à vous donner. Je crois qu'il n'y a pas de retour possible au christianisme sans retour aux rites. Parce que les rites aussi fédèrent. Quand on fait des choses ensemble, quand on vit des bons moments, on a envie de rester avec des gens qui sont chrétiens sans pour autant devenir soi-même chrétien. Tout simplement, dans ma paroisse, les missionnaires de la Miséricorde divine à Toulon, dont je vous ai déjà parlé souvent, tellement j'en suis fanatique, la fête des voisins, elle a lieu sur le parvis de l'église. Eh ben oui, donc les voisins, ben, ils vont manger à l'œil, c'est pas mal, aux frais des curés et de la paroisse, eh bien cette fête des voisins, ce repas. Bon, voilà. Il faut être aussi inventif dans le rite. On peut reprendre un truc totalement hypocrite, la fête des voisins, c'est un truc inventé par je ne sais plus quel gouvernement pour donner envie aux gens de se parler alors qu'ils ont envie de s'étriper. En fait, il y a un truc qui fonctionnait mieux pour ça s'appelait le christianisme. Mais la République, comme le diable, ne peut rien inventer, elle ne peut que imiter. Mais ce n'est pas grave, nous, on reprend quelque chose qui est fait ailleurs et puis on met Jésus là-dedans s'il peut s'y plaire comme les missionnaires en Amérique ont repris des éléments de la culture indienne et ont mis Jésus dedans voilà comment on doit vivre à mon sens le rite. Je vous donne une citation, je vous propose de la noter, vous en faites ce que vous voulez. Saint Augustin, j'aime bien Saint Augustin, l'affection du cœur, les sentiments que l'on nourrit pour Jésus, l'affection du cœur s'accroît, donc grandit, hein, l'affection du cœur s'accroît par les gestes qui la traduisent, par les gestes qui expriment l'amour, ben l'amour s'accroît. Mais évidemment, enfin ça c'est une évidence, non? Dans un couple, un bouquet de fleurs, un baiser, une parole gentille, un merci, un pardon, ben accroît l'amour. Mais alors, et dans le christianisme et dans notre relation à Dieu, la vie d'un couple est jalonnée de rites. Pour la Saint-Valentin, on offre des fleurs. Bon, c'est un rite un peu débile, mais quelles fleurs on offre à Jésus? Voilà, c'est la question qu'on doit se poser. Et je pense que le rite est un bon moyen d'offrir des fleurs à Jésus, en même temps d'être missionnaire. Le rite doit donner envie aux gens d'appartenir à la communauté. Ça ne doit pas être une fuite du monde. Hein, on s'entend bien là-dessus. Voilà, donc, pour moi, il y a deux. Il y a l'aspect du rite, bien sûr. Il y a aussi une expression que j'avais utilisée la dernière fois, que je reprends. C'est très orgueilleux de s'auto-citer, hein, mais c'est juste que je ne suis pas très original, donc je vais redire la même chose, puis c'est tout. Nous sommes des barbares sophistiqués, hein, comme les Aztèques. On peut envoyer des gens sur la Lune, mais on tue 200 000 enfants dans le ventre de leur mère chaque année. Moi, je pense qu'il ne faut rien lâcher sur ce sujet-là. Pour ma part, j'étais contre l'avortement avant d'être catholique, ça me paraissait une évidence. Mon corps m'appartient. Ben ouais, ton corps t'appartient. Pas celui de l'enfant qui est en toi. Et même, et quand tu dis, j'imagine quelqu'un qui est en face de moi, qu'il aura une vie misérable, cet enfant, bah, qui es-tu pour décider de sa vie et de son destin? Est-ce qu'il n'est pas libre? Cette liberté, tu lui refuses en fait, en promouvant le meurtre des enfants à naître. Il faut rien lâcher là-dessus, hein. C'est le truc le plus grave qui existe aujourd'hui dans notre pays. C'est vraiment le mal le plus grave. Il faut vraiment rien lâcher là-dessus. Il faut être courageux. On est comme Sainte-Jeanne d'Arc. Avant de réfléchir aux moyens de toucher les gens pour gagner en efficacité, souvenons-nous que les hommes d'armes combattent et Dieu donne la victoire. Si Dieu ne donne pas la victoire, c'est qu'il veut pas la donner. Mais faisons notre devoir, soyons courageux et soyons des témoins radicaux de cette vérité. Bon, nous sommes une société déritualisée, on manque de courage, on a aussi un problème pour évangéliser, c'est une laïcité extrêmement agressive, c'est-à-dire que l'État aujourd'hui, vous ne le savez peut-être pas, mais a une interprétation de la laïcité qui est assez restrictive, enfin en tout cas pas pour toutes les religions, hein. Vous savez que les églises sont la propriété de l'État en France, hein. Vous imaginez un type comme Mélenchon demain arrive au pouvoir. Bon, déjà Macron, c'est pas terrible, mais là vous n'allez pas rigoler. Les évêques ne sont jamais nommés sans l'autorisation, bon, qui est donnée généralement de facto, hein, mais bon, parce que c'est un protocole simplement, c'est une formalité administrative, oui, mais bon, ne sont pas donnés sans l'avis positif du gouvernement. La liste des évêques est toujours soumise au ministre de l'Intérieur parce qu'il est ministre de l'Intérieur et des cultes. Alors certes, le pouvoir, enfin, je crois, enfin, après tout, je ne suis pas sûr, hein, il me semble, n'est pas utilisé de manière tyrannique par le ministre de l'Intérieur. En même temps, on n'en sait rien, hein. On n'en sait rien. Peut-être que les services de l'Église, à chaque fois, se couchent devant le ministre de l'Intérieur, hein, et il y a peut-être une omerta là-dessus, j'en sais rien. Je ne suis pas dans les petits papiers de l'Église. En tout cas, au nom de cette laïcité qui postule la séparation, en fait, il n'y a pas beaucoup de séparation. En tout cas, elle s'est faite au préjudice de l'Église et au profit de l'État. On a une politique globalement hostile au catholicisme, hein, PMA, GPA, avortement, on n'est plus dans le même monde. Hein. C'est pour ça que, voilà, pour moi, on n'est pas les premiers chrétiens, on n'est pas au 5e siècle après Jésus-Christ, au temps des grandes invasions, même s'il y a de forts points communs, on est surtout au milieu des Aztèques. Et donc c'est comme ça qu'il faut se penser, je pense, voilà, en conquérant de l'amour. Et donc oui, toutes les religions ne sont pas à égalité. Hein. Je ne sais pas si vous savez, mais Hanouka, la fête des Lumières, a été fêtée à l'Élysée. Voilà. Il y a une série de lumières allumées, je crois, au début de la fête juive de Hanouka, sur le candélabre, enfin sur une espèce de chandelier. Bon, je ne suis pas spécialiste en judaïsme. La cérémonie a eu lieu à l'Élysée avec le grand rabbin de France. Et une bougie a été allumée à la demande du rabbin par le président Macron. Vous imaginez? Si notre président donnait dans les locaux de l'Élysée un lieu pour une célébration religieuse catholique par un prêtre pour lancer l'avent avec des cantiques, etc. Machin. Attendez, ça ferait un scandale incroyable. Donc il y a des citoyens qui sont un peu plus au-dessus des autres quand même dans ce pays. Ce ne sont pas les catholiques. Voilà. Depuis 1970, le nombre de mosquées a été multiplié par 24 en France. Alors qu'il y en avait 100 dans les années 70 et encore, c'était des locaux un peu miteux dans des foyers de travailleurs, Sonacotra, les fameux foyers de Sonacotra dans les années 70. Aujourd'hui, il y en a 2400. On est passé de 100 à 2400. Donc, il faut être lucide là-dessus, hein. C'est-à-dire que la politique n'est pas, l'État n'est pas avec nous. C'est là où, pour le coup, on n'est pas exactement comme les conquistadors. On est aussi un petit peu, c'est vrai, comme les premiers chrétiens. On a un peu tout à refaire. Mais moi, je trouve ça exaltant. Donc, je crois que si, en effet, si les catholiques ne deviennent pas plus nombreux, bah, le politique continuera de nous ignorer, de nous mépriser. Mais en même temps, il ne s'agit pas qu'une question de nombre. En fait, tous les catholiques ne sont pas destinés, enfin, ne sont pas destinés, si, on est tous destinés à être courageux, mais en fait, il faut quand même acter que la plupart des gens peuvent, à nos yeux, quand on est missionnaire, manquer de courage. Je conclurai là-dessus. Peuvent se montrer lâches. Mais c'est normal. En fait, je pense que tout le monde n'a pas la même vocation à l'héroïsme. Une mère de famille, elle est héroïque dans son sacrifice. Elle se donne pour sa famille, pour ses enfants. Elle ne travaille pas. Elle refuse un certain épanouissement pour en préférer un autre. Elle se soumet totalement au bien commun. C'est extrêmement courageux. C'est un courage domestique, un courage familial, et toute l'humanité repose là-dessus. Mais comme est tout aussi courageuse, ou d'une autre manière en tout cas, ben la femme qui essaye d'être mère de famille, mère au foyer, maîtresse de maison, et en même temps qui travaille, parce qu'elle n'a pas le choix aujourd'hui, surtout dans notre région, en Provence, et qui tient à être plus présente dans la maison, plus présente dans les tâches domestiques, plus présente auprès des enfants que son mari, alors qu'elle travaille parfois autant ou plus. Bon, là aussi, il y a un courage énorme. Et puis, il y a le courage de ceux qui vont aller sur la place publique, déclamer voilà, la parole de Jésus, etc. Il y a différentes formes de courage, donc il ne faut pas s'attendre à ce qu'on soit tous capables de faire du porte-à-porte, mais déjà, comme le disait le père François de Sales, ne jamais perdre une occasion de parler du bon Dieu. Dans toutes les discussions, le mot du bon Dieu doit être lâché. Vous êtes à la salle, vous poussez de la fonte, vous êtes avec Michael, Enzo, Kevin, qui vous dit allez, vas-y, vas-y, etc. Et puis, je sais pas, moi, vous parlez du diable parce qu'il y a un film d'horreur qui est sorti à la télé, un truc à la con. Enfin, pardon. Mais je sais pas, vous pouvez lui dire ah ouais, mais bon, il y a un diable, mais il y a le bon Dieu aussi. Et ouais, moi j'y crois. Boum. Et voilà. Et voilà. Enfin, on a une occasion. Joyeux Noël. Pourquoi pas un bon, allez, Dieu vous garde, n'importe qui comme ça, merci, Dieu vous garde. Allez, boum, on a placé un truc. C'est tellement facile d'être missionnaire. Aujourd'hui, il y a des chapelets en plastique à mettre autour des enfants. Vous allez dans la rue, vous allez faire une randonnée, vous allez n'importe où avec vos petits frères et sœurs, vos filles, etc. Vous leur achetez sur le site, en plus je fais de la pub, il n'y a peut-être pas que, mais mon premier chapelet, vous le rappelez, c'est un gros chapelet là en plastique, un peu phosphorescent, c'est génial, ça brille dans la nuit. Ben vous êtes dans un commerce, on voit que ça autour du cou du petit. Ben boum! Voilà, en fait, on s'imagine la mission comme on arrive dans un lieu et notre parole est donnée et on est auteur de la discussion, on lance le truc. Mais non, celui qui va lancer le truc, c'est peut-être juste le chapelet autour du cou de votre filleule ou de votre petit frère. La curiosité, semer de la curiosité, revenir dans ces endroits, dans ces petits commerces, etc. et nouer des relations. Petit à petit, par l'amitié. Bon, peut-être que ça vous semble un peu, c'est sûr, flou ce que je vous dis quand on est lycéen ou étudiant, c'est-à-dire totalement assisté par ses parents, incapable d'acheter une baguette de pain. Peut-être que cela vous paraît flou, mais en grandissant, vous découvrirez que c'est très concret. Et peut-être l'avez-vous déjà découvert. Donc voilà, je pense qu'il faut quand même, faut pas se leurrer, hein, à terme, des changements politiques pour qu'il y ait des changements culturels et religieux. Si demain, par exemple, je pense au maire de Béziers qui a réinstauré la messe au premier jour de la corrida de la Pentecôte. Voilà, Robert Ménard. Ben, il a réinstauré la messe dans l'arène. Les gens qui vont à la corrida, ben, ils entendent parler du bon Dieu. Bon, il n'est pas catholique, Robert Ménard, mais on s'en fiche. Robert Ménard, c'est un maire qui essaye d'être ami avec l'Église. Ah, mais voilà! En fait, Clovis, c'était quoi au début? C'était un gros barbare et l'Église n'a pas attendu beaucoup mieux de lui que d'être d'abord un roi pacifique qui fait l'unité du royaume. Voilà. En fait, c'est ça ce qu'on attend d'abord d'un chef d'État, hein, qui le favorise la paix, l'unité, mais une vraie unité, hein, pas l'unité, on est tous pareils, il ne faut rien changer et on ferme les yeux sur les problèmes d'agression, etc., qui existent dans notre pays. C'est pas ça, hein, l'unité. Ça, c'est la lâcheté, c'est pas pareil. C'est ça qu'on attend pour moi d'un chef. Voilà. Moi, j'ai travaillé pour un maire à Cogolin, à côté de Saint-Tropez, pas catholique pour un sou, franc-maçon affairiste pour les affaires, pour l'argent. Je ne pense pas que c'était un franc-maçon idéologique. Il voulait bien s'entendre avec les autorités locales, et notamment parmi les autorités locales, pour lui, dans sa liste, il y avait l'évêque. Ah, que pense l'évêque du Téléthon? Vous savez, le financement de la recherche sur les embryons. Il est contre? L'Église dit non? Ok. Ben, en fait, dans ma ville, il n'y aura pas de Téléthon. Le Téléthon, c'est partout aujourd'hui. Hein. Bon, ben voilà. On doit agir aussi comme le pain dans le levain, même comme le pardon, le levain dans le pain, même quand le pain a une sale tête. Voilà. Mais bon, ben on est là pour ça. Et en même temps, je pense qu'il faut être et il faut assumer ce terme-là. Il faut pas en avoir peur. Communautaire. Oui, nous sommes une communauté. Oui, nous avons une identité particulière qui n'est pas celle des autres. Moi, je suis un nouveau converti. Quand je suis arrivé dans la communauté catholique et que j'ai vu la magnifique tradition familiale des bénédicités et la richesse des bénédicités, chanter, parce qu'on chante beaucoup les Français, pour connaître pas mal d'Espagnols notamment, je peux vous dire que eux, ils me disent, c'est hallucinant, vous chantez tout le temps à table les Français. Ce n'est pas une tradition hispanique. Hein. Eux, ils sont plus austères. Ils chantent après en général. Bon, ben voilà. Le chant fait partie des rites qui définissent une identité. Qu'est-ce qu'une identité? C'est ce qui nous rend identiques. Donc oui, il y a une identité culturelle, sociale, de catholique. Je lisais Jean Sévillia dire être catholique, c'est pas une identité. Mais je suis pas d'accord avec ça. C'est une identité, mais c'est une identité ouverte. Mais évidemment. Mais attendez, quand on veut découvrir le bon Dieu, d'abord on regarde la tête des apôtres du bon Dieu. Et s'ils nous donnent envie, ben, on a envie de les rejoindre. Toute démarche spirituelle, c'est d'abord une démarche communautaire, surtout à une époque où on trouve son conjoint sur Tinder, les amis qu'on a, ils sont sur Facebook, tout se fait, enfin beaucoup de choses se font de manière virtuelle. On ne se rend pas compte de l'isolement, de la solitude affective, de la misère affective des Français. C'est un drame immense. Donc il faut vivre la communauté comme un refuge, enfin comme un endroit pour recharger nos batteries avant de partir à l'assaut du monde, comme les chrétiens dans les catacombes. Voilà. Je pense qu'il y avait plus de lumière dans les catacombes de Rome que dans les palais où se déroulaient des orgies, que dans les palais de la Rome éternelle. Donc il faut aller puiser dans les catacombes la force de remonter ensuite à la surface pour annoncer le Christ roi qui est destiné à régner sur tout l'univers. Voilà, c'est simple, c'est clair, c'est net, sur tout l'univers, sur toute chose créée. C'est ça l'idéal de la chrétienté. Voilà. Si vous avez des questions, des choses à me dire, allons-y.
Une question, mais Aléric a un peu répondu, je pense, sur ça. C'est la différence entre la tradition et le rite. Parce que de ce que vous disiez tout à l'heure, vous donniez des exemples, moi je pensais plus que c'était une tradition et vous, on parliez de rite. Par
Oui,
exemple,
alors quand je dis.
bah, offrir des fleurs à chaque fois qu'on se voit, enfin, qu'un homme offre des fleurs à chaque fois qu'il voit sa femme, par exemple.
Alors, je ne connais pas la tradition qui fait que chaque homme offre des fleurs quand il voit sa
Ouais.
femme. Ouais, pour la Saint-Valentin, tout à fait. Oui, alors quand je dis tradition, c'est avec un T minuscule, hein. Ce n'est pas la tradition au sens de l'ensemble. De ce qui est transmis et enseigné par l'Église depuis les pères de l'Église. Voilà. C'était, donc là, une tradition, un rite, pour moi, c'est synonyme. Je ne parle pas ici du rite de la messe, je parle des autres rites qui peuvent être présents dans la messe, comme la couronne d'épines de la première communion, mais je ne parle pas du rite de la messe. Ce n'était pas mon sujet, même si, évidemment, ça fait partie de la question. Du rite, je pense qu'on aura du mal. Enfin, je pense que le rite extraordinaire, la forme extraordinaire du rite, la messe tradie, est plus apte à évangéliser parce qu'elle offre plus de beauté, de solennité, de sens du sacré et puis surtout le sens de l'adoration. Parce qu'il y a des messes très belles, je ne sais pas moi, comment il s'appelle, la communauté Saint-Martin. Donc bon, voilà, la beauté c'est un argument limité quand même, hein. Mais pour moi, ce qui est plus important, c'est l'adoration. Le rite. Quel qu'il soit, bon, la messe ou d'autres rites, ils doivent nous aider à adorer. C'est pas le rite pour le rite que je prêche. Je t'ai répondu?
Oui, merci.
Ok, pas de questions, pas de remarques.
Si, là, je pense à un truc par rapport, alors enfin, on l'a dit il y a un moment, mais quand vous parliez de la christianisation de l'Afrique en disant que c'était difficile principalement parce que la Méditerranée en fait était un obstacle entre nous et l'Afrique du Nord, mais en fait il y avait l'Afrique du Nord et il y avait tout le reste, donc est-ce qu'en passant par l'Atlantique il y avait quand même eu des contacts avec les Européens? Est-ce qu'à ce niveau-là il n'y avait
Alors,
pas eu quand même. Vous voyez ce que je veux dire?
ouais, tout à fait, pardon de t'avoir coupé. Oui, les Portugais, notamment, ont été les premiers, hein. Il faut lire notamment le récit de la navigation autour de l'Afrique de Vasco de Gama. À chaque fois qu'il s'arrêtait à un endroit pour refaire le plein de vivres, chercher une source d'eau ou autre, il plantait une croix. Enfin, c'est incroyable, il a perdu du temps, on pourrait dire aujourd'hui. Mais il a planté des croix. Bon, c'est jamais allé très loin parce que pour d'autres raisons, hein, pour les raisons que j'ai indiquées, pour des raisons politiques, pour des raisons historiques bien particulières, on a mis du temps à aller dans ces territoires-là. Et puis bon. Le passage était bouché par les comptoirs portugais qui prenaient toute la côte occidentale de l'Afrique. Les Portugais étaient là avant nous. Donc en fait, enfin, l'Afrique a été balisée par les Portugais bien avant les Français. Donc oui, ça aurait été totalement possible, mais d'autres étaient là avant nous déjà. Donc il a fallu vraiment attendre en fait, le 19e siècle, la deuxième partie du 19e siècle, pour toucher les peuples subsahariens, les peuples d'Afrique noire. Et bon, la Méditerranée a été autant, enfin autant, a été une barrière et un lien, évidemment. Voilà, on ne peut pas dire que ça n'a pas été un lien. Il y a toujours eu du commerce quand même avec les morts. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu des relations d'amitié, mais il y a toujours eu des liens commerciaux parce que ben, il fallait bien, bien s'entendre avec eux pour leur racheter les hommes qu'ils nous rasiaient. Dans la ville où j'habite, enfin Toulon, enfin moi j'habite à Bandol, mais à côté à Toulon, la ville a été au Moyen Âge rasiée, mais des dizaines de fois. La population massacrée, le seigneur de Toulon emmené en captivité. En fait, la Méditerranée, depuis la chute de l'Empire romain, elle n'est plus jamais redevenue une mer de liberté. Ça aussi, c'est une très grande division. C'est ce qu'explique Henri Pirenne, je crois que c'est lui, Pirenne, dans Mahomet et Charlemagne. Il dit que pire que les fondements de l'Empire romain, la conversion à l'islam au 7e, 8e siècle de l'Afrique du Nord. C'est parce que ça a brisé l'unité autour de la Méditerranée, l'unité latine. Et donc la chrétienté s'est plutôt rabattue sur autour du Rhin. Hein, entre l'Allemagne et la France, avec Charlemagne qui a construit sa capitale à Aix-la-Chapelle. Et voilà.
Est-ce que, s'il vous plaît, monsieur, vous pourriez rappeler le grand livre que vous nous proposez de lire sur Champlain?
Oui, alors d'abord, moi je vous conseille de regarder. Moi je vous conseille le plus simple, c'est de regarder déjà Le rêve de Champlain. Voilà, quelqu'un l'a diffusé. Donc regardez. Ça va pas en profondeur, hein. Les aspects spirituels, ils sont pas très très travaillés. Mais quand même, je suis assez étonné parce que c'est une télévision nationale, grand public, et on voit Champlain refuser les avances d'une indienne. Alors que moi, quand j'ai vu la scène arriver, je me suis dit, allez, ça y est, ils peuvent pas s'empêcher de mettre une scène de fesses. Forcément, il faut que ça dégénère. Mais pas du tout. J'étais très agréablement surpris par ça. On voit le désir de pureté morale de Champlain. Parce que les Indiennes se donnaient très facilement. Il fallait être un saint pour résister quand on était un homme comme Champlain qui n'avait pas vu sa femme depuis des mois, voire des années, parce qu'il parcourait le monde. Ben lui a résisté. Donc regardez ça. Il y a un livre que j'ai découvert aujourd'hui qui m'a l'air très bien, que je n'ai pas lu et qui est intéressant parce que visiblement il parle de la jeunesse de Champlain, du rôle de son oncle. C'est généralement une partie dont on ne parle pas trop parce qu'on la connaît peu. Et d'ailleurs, c'est un livre assez récent. L'étonnant destin de Samuel de Champlain, de Joël Sélo. Sélo. Et puis, Le rêve de Champlain, en fait, il est adapté d'un livre de David Hackett Fisher. Alors, Hackett. Hacka. E de T. Je vais vous mettre le lien Amazon en fait dans la discussion. Par pitié, n'achetez rien, rien, rien sur Amazon. Je ne sais pas si vous le savez, mais quand la Cour suprême américaine a autorisé sous Trump certains États à rendre difficile l'avortement, Amazon a fait partie des premières entreprises à s'engager, à financer les frais d'avortement ou les voyages de ses employés qui voulaient avorter dans des États où l'avortement était facile. Vous donnez de l'argent à Amazon, vous tuez des enfants dans le ventre de leur mère. Ne donnez pas d'argent à Amazon. En plus, Amazon a toujours soutenu le lobby homosexuel. Voilà, donc je vous envoie juste le lien pour votre connaissance, mais bon, vous pouvez commander ça dans n'importe quelle bonne librairie, petite librairie indépendante. Donc, Le rêve de Champlain, qui a inspiré le documentaire. Le livre que je vous ai conseillé, qui m'a l'air pas mal, mais je l'ai pas lu. Et puis Henri Servien, l'Amérique française. Eh oui, les Blablacars, évidemment. Bah, les Blablacars, c'est dingue. Je suis d'accord, le chapelet, mais bien sûr, mille fois d'accord. Ouais, tout à fait. Stérin ou Stérène, comment on dit?
Je crois qu'elles n'ont pas de micro, mais c'est stérène.
Ok. Ouais, le BlaBlaCar, c'est sûr. Et je voulais vous le dire autre chose d'ailleurs, à propos du BlaBlaCar. Non, oui, le chapelet. Moi, je connais quelqu'un. Il m'a dit, moi, le début de ma conversion, c'est en voyant quelqu'un prier le chapelet dans le bus. J'ai dit, ah ouais, ça existe encore des trucs comme ça. Il existe des catholiques qui n'ont pas honte. Vous voyez, le type, il priait son chapelet, il ne le faisait pas à voix haute, mais il avait un chapelet à la main, il faisait des signes de croix. C'est pas évident dans le bus, dans le métro, on est collé serré. Enfin bon, voilà, son signe de croix sur le lieu de travail. On n'est pas obligé de chanter des cantiques en grégorien à la face de ses collègues. On peut faire un signe de croix quand même. Franchement, et puis le courage, c'est contagieux. En fait, ça donne envie aux autres d'être courageux. Et puis, c'est par étapes aussi. Il faut être réaliste, hein. Parfois, on est un peu trop influencé par la vision des protestants évangélistes qui sont tout feu, tout flamme. Mais en fait, moi, je trouve que ça, c'est néfaste. Je ne dis pas que leur mode d'évangélisation est néfaste. S'ils touchent des cœurs, très bien, j'ai rien à dire. Mais on a tendance à culpabiliser un peu trop en tant que catholique, en disant, ouais, eux, ils ont le feu, c'est fabuleux. Non, mais ils ont le feu. Enfin, ils se réunissent 3 fois par semaine dans des salles où ils étudient la Bible ensemble, etc. Ils n'ont pas le feu, c'est pas inné, hein. Le courage, ça s'éduque, hein. Donc, ils ont commencé tout petit, hein. Voilà. Bon, sur Champlain, je vous ai répondu, je crois. Et voilà. Alors, si j'ai d'autres idées, je pourrais vous envoyer, un courriel, par exemple, à Capucine ou au Père François Sales qui vous transmettra, des idées de livres. Mais là, je crois que je vous ai tout donné, hein. Si vous avez des demandes de livres, d'ailleurs, pour d'autres conférences, voilà.
Justement, est-ce que vous pourriez nous conseiller aussi, s'il vous plaît, un livre sur François Ier et sur le début du déclin de la France, s'il y en a un?
Oui, ne bougez pas. Bon, j'ai pas retrouvé le livre, mais c'est le fameux Franck Ferrand dont vous avez certainement déjà entendu parler. Il fait des chroniques historiques sur Europe 1 qui sont assez bonnes. C'est un très bon conteur. Alors, Franck Ferrand, qu'est-ce que ça peut être sur François Ier? Un roi de chimère, peut-être. Donc déjà, le titre est clair. Voilà, François Ier, roi de chimère. Chimère au pluriel. Bon, voilà, il explique qu'en fait, François Ier, c'était un peu du baratin. Mais il n'est pas non plus dans la déconstruction, hein, vous savez, voilà. Il veut pas en rabattre sur la beauté de la royauté. Voilà. Il veut démonter voilà, des mensonges ou des erreurs qui traînent sur François Ier. Donc Franck Ferrand, François Ier, roi de chimère, je pense que c'est la meilleure introduction parce que c'est court mais pas trop, c'est toujours agréable à lire. Franck Ferrand, c'est une excellente plume. Voilà, alors sur le sujet aussi, il y a. Mon ami Jean Dumont, il est mort, paix à son âme. C'est une façon de parler, mon ami, hein, je ne l'ai pas connu. Les Pentes, l'histoire étouffée. C'est très intéressant parce qu'à travers l'histoire de Les Pentes, la fameuse bataille qui a arrêté l'avancée en Méditerranée des Turcs, à laquelle la France n'a pas participé parce qu'elle était trop occupée à envoyer ses soldats razzier des villes chrétiennes avec l'aide des Turcs, ça il faut le savoir, sous François Ier. Voilà, donc bref, donc sous l'alibi de parler de Les Pentes, en fait, il parle de la France, des relations entre la France et les Habsbourg. Et il montre que François Ier, il a encouragé une politique religieuse un peu œcuménique avant l'heure. C'est-à-dire qu'il a nommé certains évêques en France qui étaient très peu catholiques et qui trouvaient beaucoup de qualités à l'islam. C'est une partie qu'on connaît peu, hein, de François Ier. Je
Pouvez-vous
pense qu'il
juste
faut.
redonner le nom du
Ouais,
livre, pardon?
Les Pentes, l'histoire étouffée. C'est court, hein? C'est court, ça fait même pas 300, ça fait même pas, ça doit faire 250 pages. Et en fait, ça, c'est très intéressant. Voilà, parce qu'en fait, tout part de là. Hein. Le plus grand reproche qu'on peut faire à François Ier, c'est la relation avec la Turquie. Bon, je sais que on peut la défendre hein, avec d'autres arguments. Évidemment, il n'y a pas que mes arguments. Vous allez en entendre d'autres. Vous en avez entendu d'autres. Hein, je prétends pas voilà, avoir la vérité là-dessus. Hein. Bon, mais moi, j'aime pas François Ier parce qu'il a transformé la cathédrale de Toulon en mosquée, qu'il a fait vendre des esclaves par les Turcs sur le port de Toulon. Il leur a donné la ville entre 1543 et 1544. Les Turcs ont pillé les tombes des seigneurs toulonnais. Enfin, c'était une horreur. François Ier n'a pas levé le doigt. Donc, pour moi, il a totalement déshonoré la France. qu'on n'en parle pas. Je préfère largement Charles Quint. Voilà, sans hésiter, pas de problème. Je suis pas un bon français, mais c'est pas grave. Et Jean Dumont, il a écrit autre chose. Et Jean Dumont a écrit beaucoup de choses sur François Ier ou sur Lépante, sur Charles Quint, sur Cortés. Enfin, c'est le 16e siècle, c'est son sujet. Il est très pointu, il parle espagnol couramment, il a étudié les sources en Espagne, il a enseigné en Espagne. Donc, il est très très fort. Voilà. D'ailleurs, de Jean Dumont, il y a aussi L'Église au risque de l'histoire, qui a inspiré le titre de cette série de conférences. L'Église au risque de l'histoire. Ah oui, et puis, Jacques Herz, Heerss, les barbaresques. Alors là, en fait, il parle de la piraterie des barbaresques, c'est-à-dire des Maures, des musulmans d'Afrique du Nord, en Méditerranée. Et donc, il y a un long passage sur François Ier, évidemment, puisqu'il les a beaucoup aidés. Et donc, lui raconte notamment ses nominations d'évêques très controversées. Alors, voilà. Albéric nous fait une remarque sur le rite, la coutume, la tradition. Pour moi, tout cela est synonyme, mais c'est vrai que le rite a une connotation plus religieuse, donc c'est une précision utile, tout à fait. Voilà, je crois vous avoir tout dit. Donc, commencez par le bouquin de François Ier, hein, si vous estimez que vous êtes assez, voilà, vous êtes assez nourri avec ça, ben on s'arrête là. Mais Jean Dumont, c'est vraiment le top. Hein. Mais peut-être que pour débuter sur tous ces sujets, c'est dense, hein, il y a beaucoup de choses. C'est pas forcément compliqué. Hein. C'est pas compliqué, mais c'est très dense. Beaucoup d'infos.
Ok, merci beaucoup, monsieur.
Voilà. Après, si vous avez d'autres demandes de conseils de lecture, je peux au moins vous donner des conseils de gens à qui demander, notamment au barreau. Ok. Bon, ben vous avez mon courriel en cas de besoin. Voilà, c'était intéressant de faire ça. J'ai pas eu beaucoup de temps de préparation, hein. Le PFS qui va écouter la vidéo, il faut qu'il le sache, hein. Il
Je
m'a
ne sais
vraiment
pas s'il
prévenu.
écoute les vidéos de l'EPFS.
Ah, il m'a dit que c'était ah, il m'a dit, je te préviens, c'est enregistré et j'écoute derrière, donc dis pas de bêtises. Il n'a pas utilisé le
Ah,
mot bêtise.
mince. Ok,
Donc je crois quand même que si, on est surveillé. Donc j'ai eu assez peu de temps de préparation. Je regrette d'avoir eu. Je confesse avoir fait un mauvais choix d'articulation. Sur le Moyen Âge, en fait, ça aurait vraiment mérité plusieurs conférences. Donc, vous l'avez remarqué, hein, j'ai dû aller un peu vite, je me suis parfois un peu emmêlé. Donc, j'ai essayé de dire l'essentiel, mais c'est vrai que je suis allé très très vite. Le Moyen Âge, ça mérite au moins deux, trois conférences, hein, parce qu'il y a vraiment des choses passionnantes. Le Moyen Âge, c'est 1000 ans quand même, hein.
est-ce que vous pensez qu'on pourrait refaire des conférences sur ce sujet? Pas
Oui,
forcément
tout à fait.
là tout de suite, mais...
Ouais, bah, oui, bien sûr, moi je suis disponible, ça me plaît. Voilà, j'ai déjà fait ça bon, plutôt pour des collégiens, mais voilà, pour des lycéens et étudiants, c'est une première. Donc oui, très volontiers. Il faut juste que je sois prévenu un peu plus à l'avance
Oui, c'est vrai.
pour que je puisse voilà, déterminer si, un, je suis 100% compétent, et sinon, bah, pour vous conseiller quelqu'un d'autre. Mais oui, avec grand plaisir. Très grand plaisir. Je fais partie d'une association qui existe encore malgré les menaces actuelles de dissolution et qui s'appelle Academia Christiana et qui diffuse du contenu vidéo sur Internet. Alors des contenus politiques, mais aussi des contenus historiques. Donc peut-être que vous trouverez aussi dedans des ressources intéressantes. Voilà, une association qui organise des universités d'été où on fait à la fois de la boxe. Où on apprend parfois à créer un potager, où on apprend des danses traditionnelles et où on se forme aussi intellectuellement. Je pense que c'est important pour nous chrétiens d'être pas seulement des cerveaux, mais des hommes et des femmes complets. Et en général, l'édition estivale a lieu autour de mi-juillet dans un monastère au nord du sud de la France. Près de Carpentras, pas très loin.
Oui,
Voilà.
oui. Ça me dit quelque
Donc, je
chose.
pense que vous trouverez sans problème. Voilà, on a été accueillis l'an dernier là-bas par les moines, c'était génial. On accueille à partir de 15 ans avec autorisation des parents. Et puis voilà. Puis voilà, donc je soutiens, vous, voilà, vous serez tenu au courant. Enfin voilà, vous pouvez suivre notre actualité. J'espère qu'on pourra encore exister parce qu'on est sous le feu de certaines critiques, à mon avis, de mauvaise foi. Mais en tout cas, pour l'instant, on existe encore et donc peut-être qu'en été, nous pourrons voilà, nous retrouver en Provence. Et l'édition nationale a lieu généralement dans l'ouest de la France. Voilà, autour du 15 août, enfin troisième semaine d'août, 15 juillet, 15 août à peu près. Voilà. Un peu après le 15 août. Bon, voilà, merci d'avoir assisté à ces conférences. Et puis voilà, Dieu vous garde et puis à bientôt.
Merci beaucoup,
Merci,
monsieur.
monsieur.
Merci, monsieur. C'était passionnant.
Merci
Oui,
beaucoup.
merci beaucoup.
Merci beaucoup, monsieur. Bonne soirée.